Il est à Paris pour couvrir le procès des attentats de Charlie Hebdo. Fabrice de Pierrebourg, journaliste d'enquête. Bonjour.
Salut Bernard.
Comment ça s'est passé aujourd'hui?
Aujourd'hui, on a commencé, je vais dire, à rentrer un peu dans le dossier. Ça a été ce qu'on appelle dans le système judiciaire français les interrogatoires de personnalité.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est ça, tu vas me dire? Ben, c'est en gros, c'est je vais citer le président de la cour spéciale qui a dit « On juge des faits, mais avant tout des hommes qu'il faut connaître sur un plan personnel. » Donc en gros, c'est un interrogatoire, on n'attaque pas encore du tout le fond du dossier, mais l'idée, c'est de questionner les accusés les uns après les autres en leur demandant de raconter leur enfance, leur jeunesse, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie jusqu'au moment où ils ont été arrêtés, etc. Donc c'est vraiment sur un plan, je dirais, humain, et c'est le juge principal qui questionne en premier, puis après, l'accusé peut être questionné par des avocats des parties civiles. Je rappelle qu'il y en a une bonne centaine. Et le procureur de la République, qui est l'équivalent du procureur de la Couronne. Et c'était vraiment intéressant parce que les accusés en France ont aussi le droit de garder le silence, mais ils ont le droit de parler. Ils peuvent parler n'importe quand pendant un procès. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert.
Ah oui?
Oui. Donc, ils sont dans le box, ils peuvent se lever, ils peuvent faire une objection, leur avocat peut parler. Donc, le premier qui a été interrogé, ils l'ont fait par ordre alphabétique, c'est un certain Abdelaziz Abad qui a 36 ans. Lui, il risque 20 ans de prison parce que il aurait participé à la fourniture et au stockage de fusils d'assaut, gilets pare-balles, etc., qui ont été utilisés par les terroristes. Mais lui, il dit, sa vie a vraiment basculé à la suite d'une longue hospitalisation quand il était jeune. Puis il dit, j'ai fréquenté des mauvaises personnes à la suite de mon hospitalisation. Je suis rentré un peu dans la délinquance, trafic de stupéfiants. Ça m'a valu des condamnations. Puis il dit, aujourd'hui, je me retrouve dans cette histoire à cause de ces fréquentations. Il dit, je ne sais pas quoi dire d'autre. Puis il a dénoncé...
Donc il reconnaît les faits. Il reconnaît les faits, Fabrice.
Non, parce que non, il reconnaît pas qu'il pour l'instant on n'a pas abordé l'histoire avec vous non participé au trafic d'armes.
Non, je comprends, mais il reconnaît son processus de radicalisation.
Non, parce qu'après il a dit en gros il y en a beaucoup là-dedans, c'est un peu des petits voyous, des paumés. C'est pour ça qu'il y en a qui disent c'est un peu le second, troisième cercle autour des terroristes. Est-ce qu'ils savaient vraiment à quoi ils servaient dans cette organisation-là, si on peut parler d'organisation? Mais lui, il a dénoncé l'idéologie djihadiste. Il a dit, ça correspondait pas à sa conception personnelle et familiale de la religion. Il dit, je ne peux pas supporter que l'on puisse tuer au nom d'une religion. Et il a été apostrophé après par une avocate des parties civiles qui lui a dit, mais est-ce que vous compatissez avec les familles des victimes? Il dit, bien sûr. Il dit, moi, ils souffrent plus que moi, même si je suis incarcéré depuis plus de 5 ans. Alors, il y a eu des échanges comme ça. Il y en a eu un autre. Alors, lui, c'est le doyen des accusés. Il s'appelle Michel Catino. C'est un Belge d'origine italienne. Alors là, on est vraiment dans un autre profil. Un garagiste, un peu voûté, cheveux mi-longs, sa voix tremblotait, il tenait ses lunettes à la main. Là. Lui, c'est un peu un grand-père magouilleur. Puis on suspecte aussi qu'il a été de près ou de loin mêlé à toute la partie fourniture d'armes. Mais lui, il dit finalement, moi, ma vie, elle était tranquille jusqu'à temps que la police ferme mon café parce que ça servait de repère de jeu clandestin. Il a dit, moi, j'adore jouer aux cartes, j'adore jouer au poker. Donc, tu vois, on est vraiment dans cette ambiance-là aujourd'hui. On n'attaque pas le fond du tout. Là. On est vraiment dans qui êtes-vous, décrivez-vous. Puis c'est une occasion pour les accusés de se décrire. Alors peut-être que certains mentent, je ne sais pas, hein, ça va durer des jours. Là. Mais moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que dans les procès, souvent au Canada, on n'entend jamais les accusés. Hein. Ils ont le droit au silence, ils l'exercent. Donc on ne sait pas du tout qui ils sont, on n'entend même pas le son de leur voix. Alors que là, puis le juge est très patient, il parle d'une voix très calme, il les laisse aller, quoi. Alors, en gros, c'est ça. Sinon, il y a eu un psychodrame autour du masque. Je t'entendais parler de la COVID avant.
Autour du masque?
Ça fait 2 jours que les avocats, à la fois de la défense puis des parties civiles, certains, font des représentations pour dire on en a le masque, c'est pas bon, ça bafoue les droits de la défense, qu'on peut pas voir le visage de l'accusé. Ça, c'est vrai, c'est important dans un tribunal de voir le visage de l'accusé quand il parle, quand on l'interroge. Puis hier, le juge a dit, écoutez, quand ça aura fini, hier soir, ça finit à 19h45, la séance. Ça n'arrête pas à 17h, là. Il faut respecter les délais. Le juge est parti faire des consultations à droite et à gauche. Et ce matin, il a dit, écoutez, j'ai trouvé un compromis. Quand avocat et accusé vont aller au micro pour parler, ils enlèveront leur masque. Hein? Puis après, vous le remettez parce que c'est important. Il dit, il dit que ça devienne un cluster, hein, comme on dit en France. Il ne voulait pas que la salle du tribunal devienne un foyer. Puis là, il y a un avocat de la défense, lui, il n'était pas content, il s'est levé, il a dit, c'est un scandale. Il dit, si il y a quelqu'un qui est malade dans ce tribunal, le procès va s'arrêter, puis mon client va encore être en prison pendant des années. Alors, on voit que le masque, finalement, ça fait jaser. Puis et toute la journée, à chaque fois que quelqu'un en entendait mal, il disait « Enlevez votre masque, enlevez votre masque », ça gênait l'élocution et l'audition. Ça, c'est un petit clin d'œil, mais ça prouve que on voit que les débats de l'extérieur sont aussi importés à l'intérieur d'une salle d'audience.
Parle-nous de ce que ça représente pour les Français, ce procès. Est-ce que la... Comment je dirais bien ça? Comment est-ce qui s'est passé Charlie Hebdo, il y a eu deux autres épisodes sanglants où il y a eu des décès.
Ben oui, 7-8-9, il y a eu une policière tuée à Montrouge, puis il y a eu l'hypercacher le surlendemain. Donc, c'est voilà. Trois procès qu'on juge d'un seul bloc. Là. Parce qu'on considère qu'il y avait des liens, finalement, entre les trois responsables, hein, on va le rappeler vite fait, les Farkouachi, Koulibaly, qui ont été tués par les forces de l'ordre, qui sont pas là, évidemment, pour... dans le procès.
Comment ça a marqué la France? Comment ça a marqué la France, Fabrice? Et comment la France a changé depuis? Est-ce que la France est devenue plus vigilante face au terrorisme islamiste? Ou est-ce que c'est... Quelle analyse tu fais? Je te donne 2 minutes, là.
2 minutes? Ben, d'abord, j'habite plus en France, donc c'est délicat. C'est sûr qu'on se rappelle de l'émotion à l'époque, hein, les grandes manifs, etc. et tout. Il y a eu un sondage qui a été commandé par Charlie Hebdo, là, au mois d'août. Ça dit que 59% des Français sont pro-Charlie et approuvent la publication des caricatures. C'est 20% de plus qu'à l'époque, en 2006, parce qu'elles avaient été publiées en 2006, ces caricatures-là. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'il y a un clivage au sein de la population. On s'est rendu compte que la plupart des jeunes, 47% des jeunes de moins de 25 ans, ont exprimé leur désaccord, et 21%, et dont près du tiers des 15-17 ans, ne condamnent pas la tuerie.
Hein?
C'est fou, hein? Oui, 21% des jeunes de moins de 25 ans. Et un tiers des 15-17 ans de ce sondage ne condamne pas la tuerie. Alors, Charlie Hebdo...
Comme si Charlie Hebdo avait couru après. Comme si Charlie Hebdo avait couru après. C'est, ouais. C'est un peu ça, non?
Ben, Charlie Hebdo, finalement, dans leur texte, ils disaient que si on veut défendre la liberté d'expression, il faut arrêter d'être jeune. Bon, c'est sûr qu'ils ont republié les caricatures. On sait que ça fait jaser de nouveau un petit peu. Mais je te dirais qu'en France, en ce moment, oui, on suit le procès, mais on a d'autres soucis. Il y a un plan de relance économique de 100 milliards de dollars aujourd'hui présenté par le président Macron. Les gens sont inquiets pour leur avenir. C'est sûr qu'il y a des risques d'attentats, on sait. Hein, je l'ai dit peut-être hier, il y a eu 6 complots qui ont été démantelés au cours des derniers mois. 8000 personnes radicalisées, mais toutes mouvances confondues. Hein, djihadistes, extrême droite, extrême gauche sur les fichiers.
Mais c'est beaucoup, 8000 sur le territoire national. Fabrice, 8000 personnes fichées pour radicalisation à caractère terroriste.
Ouais. Violente, oui, c'est ça, potentiellement violente, mais toute mouvance confondue. Alors, mais les Français, eux, ils veulent, en ce moment, leur priorité, c'est vraiment l'avenir économique. Puis je te dirais même que la COVID, en tant que telle, fait moins les manchettes dans les médias qu'au Québec. On en parle beaucoup moins, il n'y a pas de courbe là-bas. Oui, on en parle, on en a parlé au moment de la rentrée scolaire, comme au Québec. Les chiffres montent, descendent. Puis juste une anecdote sur les masques, là. Il y a un tribunal de l'Est de la France hier qui a abrogé un arrêté qui avait été pris par un préfet autour de Strasbourg pour obliger le masque la journée, enfin tout 24 heures sur 24 à l'extérieur, j'ai bien à l'extérieur. Le tribunal a considéré que c'était abusif, qu'on peut pas, que la situation n'est pas la même dans une rue passante en plein après-midi qu'en pleine nuit à 2 heures du matin dans une rue déserte. Puis il a redemandé au préfet de retourner à sa copie puis de revenir avec quelque chose de plus sensé. Mais ça, ça peut faire jurisprudence.
Mais bon,
c'est quand même intéressant, ça.
Fabrice de Pierrebourg, donc, qui nous parlait depuis Paris. Merci, Fabrice.
Salut Bernard.
Salut.